La seconde pièce, dont la porte était ornée du mot « caisse », s'harmoniait avec les sinistres facéties du premier bureau. Dans un coin, il se trouvait une grande cage en bois de chêne, treillissée, en fil de cuivre, à chatière mobile, garnie d'une énorme malle en fer, sans doute abandonnée aux cabrioles des rats. Cette cage, dont la porte était ouverte, contenait encore un bureau fantastique et son fauteuil ignoble, troué, vert, à fond percé, dont le crin s'échappait, comme la perruque du patron, en mille tire-bouchons et grillards. Cette pièce, évidemment autrefois le salon de l'appartement, avant qu'il ne fût converti en bureau de banque, offrait pour principal ornement une table ronde revêtue d'un tapis en drap vert autour de laquelle étaient de vieilles chaises en maroquin noir et à clous dédorés. La cheminée, assez élégante, ne présentait à l'œil aucune des morsures noires que laisse le feu. Sa plaque était propre, sa glace, injuriée par les mouches, avait un air mesquin, d'accord avec une pendule en bois d'acajou qui provenait de la vente de quelques vieux notaires et qui ennuyait le regard, attristé déjà par deux flambeaux sans bougie et par une poussière gluante. Le papier de tenture, gris de souris, bordé de rose, annonçait par des teintes fuligineuses le séjour malsain de quelques fumeurs. Rien ne ressemblait davantage au salon banal que les journaux appellent « cabinet de rédaction ». Birotteau, craignant d'être indiscret, frappa trois coups brefs à la porte opposée à celle par laquelle il était entré. « Entrez !» cria Claparon, dont la tonalité révéla la distance que sa voix avait à parcourir et le vide de cette pièce où le parfumeur entendait pétiller un bon feu, mais où le banquier n'était pas. Cette chambre lui servait en effet de cabinet particulier. Entre la fastueuse audience de Keller et la singulière insouciance de ce prétendu grand industriel, il y avait toute la différence qui existe entre Versailles et le vigame d'un chef de Huron. Le parfumeur avait vu les grandeurs de la banque, il allait en voir les gamineries. Couché dans une sorte de bouge oblong pratiquée derrière le cabinet, et où les habitudes d'une vie insoucieuse avaient abîmé, perdu, confondu, déchiré, encrassé, ruiné tout un mobilier à peu près élégant dans sa primeur, Claparon, à l'aspect de Birotteau, s'enveloppa dans sa robe de chambre crasseuse, déposa sa pipe et tira les rideaux du lit avec une rapidité qui fit suspecter ses mœurs par l'innocent parfumeur. « Asseyez-vous, monsieur, » dit le banquier. Claparon, sans perruque, et la tête enveloppée dans un foulard mis de travers, parut d'autant plus hideux à Birotteau que la robe de chambre en s'entr'ouvrant laissa voir une espèce de maillot en laine blanche tricotée, rendu brune par un usage infiniment trop prolongé. « Voulez-vous déjeuner avec moi ?» dit Claparon, en se rappelant le bal du parfumeur et voulant autant prendre sa revanche que lui donner le change par cette invitation. En effet, une table ronde débarrassée à la hâte de ses papiers accusait une jolie compagnie en montrant un pâté, des huîtres, du vin blanc et les vulgaires rognons sautés au vin de champagne figés dans leur sauce. Devant le foyer à charbon de terre, le feu dorait une omelette aux truffes. Enfin, deux couverts et leurs serviettes tachées par le souper de la veille eussent éclairé l'innocence la plus pure. En homme qui se croyait habile, Claparon insista malgré les refus de Birotteau. « Je devais avoir quelqu'un, mais ce quelqu'un s'est dégagé !» s'écria le malin voyageur, de manière à se faire entendre d'une personne qui se serait ensevelie dans ses couvertures. « Monsieur, dit Birotteau, je viens uniquement pour affaires et je ne vous tiendrai pas longtemps. »« Je suis accablé, répondit Claparon, en montrant un secrétaire à cylindre et des tables encombrées de papier. « On ne me laisse pas un pauvre moment à moi. Je ne reçois que le samedi. Mais pour vous, cher monsieur, on y est toujours. Je ne trouve plus le temps d'aimer ni de flâner. » Je perds le sentiment des affaires qui, pour reprendre son vif, veut une oisiveté savamment calculée. On ne me voit plus sur les boulevards occupé à ne rien faire. Bof, les affaires m'ennuient, je ne veux plus entendre parler d'affaires. J'ai assez d'argent et n'aurai jamais assez de bonheur. Ma foi, je veux voyager, voir l'Italie. Oh, chère Italie, belle encore au milieu de ses revers, adorable terre où je rencontrerai sans doute une Italienne molle et majestueuse. J'ai toujours aimé les Italiennes. « Avez-vous jamais eu une Italienne à vous ? Non ? Eh bien, venez avec moi en Italie. Nous verrons Venise, séjour des doges, et bien mal tombée aux mains inintelligentes de l'Autriche où les arts sont inconnus. Bah, laissons les affaires, les canaux, les emprunts et les gouvernements tranquilles. Je suis bon prince quand j'ai le gousset garni. Tonnerre, voyageons !»« Un seul mot, monsieur, et je vous laisse, dit Birotteau. Vous avez passé mes effets à monsieur Bidou. »« Vous voulez dire Gigonnet ? Ce bon petit gigonnet, un homme coulant, comme un nœud. Oui, reprit César, je voudrais... Et en ceci, je compte sur votre honneur et votre délicatesse. Claparon s'inclina. Je voudrais pouvoir renouveler... Impossible, répondit nettement le banquier. Je ne suis pas seul dans l'affaire. Nous sommes réunis en conseil, une vraie chambre, mais où l'on s'entend comme des larrons en foire. Ah, diable, nous délibérons. Les terrains de la Madeleine ne sont rien, nous opérons ailleurs. Et cher monsieur, si nous ne nous étions pas engagés dans les Champs-Élysées, autour de la Bourse qui va s'achever, dans le quartier Saint-Lazare et à Tivoli, nous ne serions pas, comme dit le gros Nucingen, dans les Zéphyrs. Qu'est-ce que c'est donc que la Madeleine? Une petite souillon d'affaires. Nous ne carottons pas, mon brave, dit-il en frappant sur le ventre de Birotteau et lui serrant la taille. Allons, voyons, déjeunez, nous causerons, reprit Claparon, afin d'adoucir son refus. Volontiers, dit Birotteau. Tant pis pour le convive, pensa le parfumeur, en méditant de griser Claparon, afin d'apprendre quels étaient ses vrais associés, dans une affaire qui commençait à lui paraître ténébreuse. Bon, victoire, cria le banquier. À ce cri parut une vraie léonarde, attifée comme une marchande de poissons. « Dites à mes commis que je n'y suis pour personne, pas même pour Nucingen, les Keller, Gigonnet et autres. Il n'y a que monsieur l'empereur devenu. »« Il recevra le beau monde, dit Claparon. Le fretin ne passera pas la première pièce. On dira que je médite un coup de vin de champagne. » Griser un ancien commis voyageur est la chose impossible. César avait pris la verve du mauvais ton pour les symptômes de l'ivresse quand il essaya de confesser son associé. Cet infâme Roguin est toujours avec vous, dit Birotteau. Ne devriez-vous pas lui écrire d'aider un ami qui l'a compromis, un homme avec lequel il dînait tous les dimanches et qu'il connaît depuis 20 ans? Roguin? Un sot! Ça paraît à nous! Ne soyez pas triste, mon brave, tout ira bien. Payez le 15 et la première fois nous verrons. Quand je dis nous verrons, un verre de vin. Les fonds ne me concernent en aucune manière. Ah, ah, vous ne payeriez pas, je ne vous ferai point la mine. Je ne suis dans l'affaire que pour une commission sur les achats et pour un droit sur les réalisations, moyennant quoi je manœuvre les propriétaires, comprenez-vous? Vous avez des associés solides aussi, n'ai-je pas peur, mon cher monsieur? Aujourd'hui, les affaires se divisent. Une affaire exige le concours de tant de capacités. Mettez-vous avec nous dans les affaires? Ne carottez pas avec des pots de pommade et des peignes. Mauvais, mauvais! Tondez le public, entrez dans la spéculation. La spéculation, dit le parfumeur, quel est ce commerce? C'est le commerce abstrait, reprit Claparon. Un commerce qui restera secret pendant une dizaine d'années encore, au dire du grand Nucingen, le Napoléon de la finance, et par lequel un homme embrasse les totalités des chiffres et crème les revenus avant qu'ils n'existent. Une conception gigantesque, une façon de mettre l'espérance en coupe réglée, enfin, une nouvelle cabale. Nous ne sommes encore que 10 ou 12 têtes fortes initiées au secret cabalistique de ces magnifiques combinaisons. César ouvrait les yeux et les oreilles en essayant de comprendre cette phraséologie composite. « Écoutez, dit Claparon après une pause, de semblables coups veulent des hommes. Il y a l'homme à idées qui n'a pas le sou, comme tous les gens à idées. Ces gens-là pensent et dépensent, sans faire attention à rien. Figurez-vous un cochon qui vague dans un bois à truffes. Il est suivi par un gaillard, l'homme d'argent, qui attend le grognement excité par la trouvaille. Quand l'homme à idée a rencontré quelque bonne affaire, l'homme d'argent lui donne alors une tape sur l'épaule et lui dit « Qu'est-ce que c'est que ça ? Vous vous mettez dans la gueule d'un four, mon brave, vous n'avez pas les reins assez forts. Voilà 1000 francs et laissez-moi mettre en scène cette affaire. » Bon, le banquier convoque les industriels. « Mes amis, à l'ouvrage, des prospectus, la blague à mort. » On prend des cors de chasse et on crie à son de trompe. 100 000 francs pour 5 sous, ou 5 sous pour 100 000 francs. Des mines d'or, des mines de charbon, enfin, tous les sbrouffes du commerce. On achète la vie des hommes de science ou d'art, la parade se déploie, le public entre, il en a pour son argent, la recette est dans nos mains. Le cochon est chambré sous son toit, avec des pommes de terre, et les autres se chafriolent dans les billets de banque. Voilà, mon cher monsieur, entrez dans les affaires. Que voulez-vous être? Cochon, dindon, paillasse ou millionnaire? Réfléchissez à ceci. Je vous ai formulé la théorie des emprunts modernes. Venez me voir, vous trouverez un bon garçon toujours jovial. La jovialité française, grave et légère tout à la fois, ne nuit pas aux affaires, au contraire. Des hommes qui trinquent sont bien faits pour se comprendre. Allons, encore un verre de vin de champagne? Il est soigné, allez. Ce vin est envoyé par un homme d'Épernay même, à qui j'en ai bien fait vendre, et à bon prix. J'étais dans les vins. Il se montre reconnaissant et se souvient de moi dans ma prospérité. C'est rare. Birotteau, surpris de la légèreté, de l'insouciance de cet homme à qui tout le monde accordait une profondeur étonnante et de la capacité, n'osait plus le questionner. Dans l'excitation brouillonne où l'avait mis le vin de champagne, il se souvint cependant d'un nom qu'avait prononcé Du Tillet et demanda quel était et où demeurait M. Gobseck, banquier. « En seriez-vous là, mon cher monsieur ?» dit Claparon. « Gobseck est banquier comme le bourreau de Paris est médecin. Son premier mot est le 50%. Il est de l'école d'Harpagon. Il tient à votre disposition des serins des Canaries, des bois empaillés, des fourrures en été, du nankin en hiver. Et quelle valeur lui présenteriez-vous ? Pour prendre votre papier nu, il faudrait lui déposer votre femme, votre fille, votre parapluie, tout, jusqu'à votre carton à chapeau, vos socs. Vous donnez dans le soc articulé, pelle, pincette et le bois que vous avez dans vos caves. Gobseck ? Gobseck ? Vertu du malheur ! Qui vous a indiqué cette guillotine financière ? Monsieur Du Tillet ? Ah, le drôle ! Je le reconnais. Nous avons été jadis amis, et si nous nous sommes brouillés à ne pas nous saluer, croyez que ma répulsion est fondée. Il m'a laissé lire au fond de son âme de boue. Il m'a mis mal à mon aise pendant le beau bal que vous nous avez donné. Je ne puis pas le sentir avec son air fat. Parce qu'il a une notaresse, j'aurai des marquises, moi, quand je voudrais, et il n'aura jamais mon estime, lui. Ah, mon estime est une princesse qui ne le gênera jamais dans son lit. Vous êtes un farceur, dis donc, gros père. Nous flanquer un bal et 2 mois après demander des renouvellements. Vous pouvez aller très loin. Faisons des affaires ensemble. Vous avez une réputation. Elle me servira. Oh, Du Tillet était né pour comprendre Gobseck. Du Tillet finira mal sur la place. On le dit, le mouton de ce vieux Gobseck. Il ne peut pas aller loin. Gobseck est dans le coin de sa toile, tapi comme une vieille araignée qui a fait le tour du monde. Tôt ou tard, zut, l'usurier le sifflera comme moi ce verre de vin. Tant mieux. Du Tillet m'a joué un tour, oh, un tour pendable. Après 1h30 employée à des bavardages qui n'avaient aucun sens, Birotteau voulut partir en voyant l'ancien commis-voyageur prêt à lui raconter l'aventure d'un représentant du peuple à Marseille, amoureux d'une actrice qui jouait le rôle de la belle Arsène et que le parterre royaliste sifflait. « Il se lève, dit Claparon, et se dresse dans sa loge. Arte qu'il a ciblé eux. Si c'est une femme, je l'en prise. Si c'est un homme, nous se verrons. Si c'est ni l'un ni l'autre, que le trône dit Jou les cure. Savez-vous comment a fini l'aventure ? Adieu, monsieur, dit Birotteau. Vous aurez à venir me voir, lui dit alors Claparon. La première broche qu'Héron nous est revenue avec protêt et je suis endosseur. J'ai remboursé. Je vais envoyer chez vous, car les affaires avant tout. Birotteau se sentit atteint aussi avant dans le cœur par cette froide et grimacière obligeance que par la dureté de Keller et par la raillerie allemande de Nucingen. La familiarité de cet homme et ses grotesques confidences allumées par le vin de champagne avaient flétri l'âme de l'honnête parfumeur qui crut sortir d'un mauvais lieu financier. Il descendit l'escalier, se trouva dans les rues sans savoir où il allait. Il continua les boulevards, atteignit la rue Saint-Denis, se souvint de Molineux et se dirigea vers la cour batave. Il monta l'escalier sale et tortueux que naguère il avait monté glorieuse et fière. Il se souvint de la mesquine âpreté de Molineux et frémit d'avoir à l'implorer. Comme lors de la première visite du parfumeur, le propriétaire était au coin de son feu, mais digérant son déjeuner, Birotteau lui formula sa demande. « Renouveler un effet de 1200 francs !» dit Molineux, en exprimant une railleuse incrédulité. « Vous n'en êtes pas là, monsieur. Si vous n'avez pas 1200 francs le 15 pour payer mon billet, vous renverrez donc ma quittance de loyer impayée ? Oh, j'en serais fâché. Je n'ai pas la moindre politesse en fait d'argent, mes loyers sont mes revenus. Sans cela, avec quoi paierai-je ce que je dois ? Un commerçant ne désapprouvera pas ce principe salutaire. L'argent ne connaît personne. Il n'a pas d'oreille, l'argent. Il n'a pas de cœur, l'argent. L'hiver est rude, voilà le bois renchéri. Si vous ne payez pas le 15... Le 16, un petit commandement à midi. Bah, le bonhomme Mitral, votre huissier, est le mien. Il vous enverra son commandement sous enveloppe avec tous les égards dus à votre haute position. Monsieur, je n'ai jamais reçu d'assignation pour mon compte, dit Birotteau. Il y a un commencement à tout, dit Molineux. Consterné par la dureté du vieillard, le parfumeur fut abattu car il entendit le glas de la faillite tintant à ses oreilles. Chaque tintement réveillait le souvenir des dires que sa jurisprudence impitoyable lui avait suggérés sur les faillis. Ses opinions se dessinaient en traits de feu sur la molle substance de son cerveau. « À propos, dit Molineux, vous avez oublié de mettre sur vos effets valeur reçue en loyer, ce qui peut conserver mon privilège. » « Ma position me défend de rien faire au détriment de mes créanciers, » dit le parfumeur hébété par la vue du précipice entrouvert. « Bon, monsieur, très bien. Je croyais avoir tout appris en matière de location avec messieurs les locataires. J'apprends par vous à ne jamais recevoir d'effets en paiement. Ah, je plaiderai, car votre réponse dit assez que vous manquerez à votre signature. L'espèce intéresse tous les propriétaires de Paris. » Birotteau sortit, dégoûté de la vie. Il est dans la nature de ces âmes tendres et molles de se rebuter à un premier refus, de même qu'un premier succès les encourage. César n'espéra plus que dans le dévouement du petit Popinot, auquel il pensa naturellement en se trouvant au marché des innocents. « Le pauvre enfant, qui m'eût dit cela quand il y a 6 semaines aux Tuileries, je le lançais. » Il était environ 4 heures, moment où les magistrats quittent le palais. Par hasard, le juge d'instruction était venu voir son neveu. Ce juge, l'un des esprits les plus perspicaces en fait de morale, avait une seconde vue qui lui permettait de voir les intentions secrètes, de reconnaître le sens des actions humaines les plus indifférentes, les germes d'un crime, les racines d'un délit. Il regarda Birotteau sans que Birotteau s'en doutât. Le parfumeur, contrarié de trouver l'oncle auprès du neveu, lui parut gêné, préoccupé, pensif. Le petit Popinot, toujours affairé, la plume à l'oreille, fut comme toujours à plat ventre devant le père de sa Césarine. Les phrases banales dites par César à son associé parurent au juge être les paravents d'une demande importante. Au lieu de partir, le rusé magistrat resta chez son neveu malgré son neveu, car il avait calculé que le parfumeur essaierait de se débarrasser de lui en se retirant lui-même. Quand Birotteau partit, le juge s'en alla, mais il remarqua Birotteau flânant dans la partie de la rue des 5 Diamants qui mène à la rue Aubry-le-Boucher. Cette minime circonstance lui donna des soupçons sur les intentions de César. Il sortit alors rue des Lombards, et quand il eut vu le parfumeur rentrer chez Anselme, il y revint promptement. « Mon cher Popinot, avait dit César à son associé, je viens te demander un service. »« Que faut-il faire ? » dit Popinot avec une généreuse ardeur. « Ah, tu me sauves la vie !» s'écria le bonhomme, heureux de cette chaleur de cœur qui scintillait au milieu des glaces où il voyageait depuis 25 jours. « Il faudrait me régler 50 000 francs en compte sur ma portion de bénéfices. Nous nous entendrions pour le paiement. » Popinot regarda fixement César. César baissa les yeux. En ce moment, le juge reparut. « Mon enfant !»« Ah ! Pardon, monsieur Birotteau ! Mon enfant, j'ai oublié de te dire !» Et par le geste impérieux de magistrat, le juge attira son neveu dans la rue et le força, quoiqu'en veste et tête nue, à l'écouter en marchant vers la rue des Lombards. « Mon neveu, ton ancien patron pourrait se trouver dans des affaires tellement embarrassées qu'il lui fallut en venir à déposer son bilan. Avant d'arriver là, les hommes qui comptent 40 ans de probité, les hommes les plus vertueux, dans le désir de conserver leur honneur, imitent les joueurs les plus enragés. Ils sont capables de tout. Ils vendent leurs femmes, trafiquent de leurs filles, compromettent leurs meilleurs amis, mettent en gage ce qui ne leur appartient pas. Ils vont au jeu, deviennent comédiens, menteurs, ils savent pleurer. Enfin, j'ai vu les choses les plus extraordinaires. Toi-même as été témoin de la bonhomie de Roguin, à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession. Je n'applique pas ces conclusions rigoureuses à M. Birotteau, je le crois honnête. Mais s'il te demandait de faire quoi que ce soit qui fût contraire aux lois du commerce, comme de souscrire des effets de complaisance et de te lancer dans un système de circulation, qui, selon moi, est un commencement de friponnerie, car c'est la fausse monnaie du papier, promets-moi de ne rien signer sans me consulter. Songe que si tu aimes sa fille, il ne faut pas, dans l'intérêt même de ta passion, détruire ton avenir. Si M. Birotteau doit tomber, à quoi bon tomber vous deux ? N'est-ce pas vous priver l'un et l'autre de toutes les chances de ta maison de commerce qui sera son refuge ? Merci, mon oncle. À bon entendeur, salut, dit Popinot, à qui la navrante exclamation de son patron fut alors expliquée. Le marchand d'huile fine et autres rentra dans sa sombre boutique, le front soucieux. Birotteau remarqua ce changement. « Faites-moi l'honneur de monter dans ma chambre, nous y serons mieux qu'ici. Les commis, quoique très occupés, pourraient nous entendre. » Birotteau suivit Popinot, en proie aux anxiétés du condamné, entre la cassation de son arrêt ou le rejet de son pourvoi. « Mon cher bienfaiteur, dit Anselme, vous ne doutez pas de mon dévouement, il est aveugle. Permettez-moi seulement de vous demander si cette somme vous sauve entièrement, si ce n'est pas seulement un retard à quelque catastrophe, et alors, à quoi bon m'entraîner? Il vous faut des billets à 90 jours, eh bien, dans 3 mois, il me sera certes impossible de les payer. » Birotteau, pâle et solennel, se leva, regarda Popinot. Popinot, épouvanté, s'écria « Je les ferai si vous voulez !»« Ingrat !» dit le parfumeur, qui usa du reste de ses forces pour jeter ce mot au front d'Anselme comme une marque d'infamie. Birotteau marcha vers la porte et sortit. Popinot, revenu de la sensation que ce mot terrible produisit sur lui, se jeta dans l'escalier, courut dans la rue, mais il ne trouva point le parfumeur. L'amant de Césarine entendit toujours ce formidable arrêt. Il eut constamment sous les yeux la figure décomposée du pauvre César. Il vécut enfin, comme Hamlet, avec un épouvantable spectre à ses côtés. Birotteau tourna dans les rues de ce quartier comme un homme ivre. Cependant, il finit par se trouver sur le quai, le suivit, et alla jusqu'à Sèvres, où il passa la nuit dans une auberge insensée de douleur. Sa femme effrayée n'osa le faire chercher nulle part. En semblable occurrence, une alarme imprudemment donnée est fatale. La sage Constance immola ses inquiétudes à la réputation commerciale. Elle attendit pendant toute la nuit, entremêlant ses prières aux alarmes. César était-il mort? Était-il allé faire quelques courses au dehors de Paris, à la piste d'un dernier espoir? Le lendemain matin, elle se conduisit comme si elle connaissait les raisons de cette absence. Mais elle manda son oncle et le pria d'aller à la morgue, en voyant qu'à 5 heures Birotteau n'était pas revenu. Pendant ce temps, la courageuse créature était à son comptoir, sa fille brodait auprès d'elle. Toutes deux, le visage composé, ni triste ni souriant, répondaient au public. Quand Pierrot revint, il revint accompagné de César.